vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 12. Mais avant ça, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Quelle grâce de pouvoir écouter ta voix. Et nous voulons, Père, que tu nous parles. Nous voulons t'écouter attentivement. Aide-nous. Permets-nous de mettre de côté nos préoccupations, nos inquiétudes, mais d'être pleinement à l'écoute. Que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, afin que nous recevions cette parole avec foi, que nous soyons disposés à changer, à nous remettre en question, à vivre d'une manière qui est conforme à l'Évangile. Et tout cela pour ta gloire. Amen. Philippiens au chapitre 2, et je lis à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis encore avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il a été fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de supplier à l'absence de votre service pour moi. Comment l'Évangile va-t-il se répandre? C'est une question très concrète pour nous à Montauban. Comment est-ce que Montauban, comment est-ce que le département va connaître l'Évangile? Nous voulons que Jésus soit connu, nous voulons faire rayonner l'Évangile, mais quelle est notre stratégie? Quelle est votre stratégie pour qu'à Toulouse aussi, Jésus soit connu? Dans le cadre de ma formation biblique, j'ai été envoyé avec une équipe de quelques étudiants dans une église pour l'aider dans leur travail d'évangélisation. Et c'était une très belle semaine. On a fait plein de belles expériences, de rencontres avec des personnes qui étaient disposées à discuter avec nous. On a rencontré des gens dans la rue, on a organisé des événements pour les enfants dans un parc, on a organisé des conférences, des études bibliques, et puis des personnes sont venues aussi à la rencontre du dimanche. C'était encourageant. C'était une semaine intense, il y avait beaucoup de travail, mais on était quand même dans la joie. Mais il y avait quelque chose qui était dérangeant, quelque chose en fait qui était décourageant, malgré toutes les belles choses qu'on a pu voir. Quelque chose qui donnait un goût amer en repartant chez nous. Ce qui était décourageant, c'était pas qu'on n'ait pas eu des occasions de parler de Jésus. Ce qui était décourageant, c'était ce sentiment à la fin, cette impression que l'Église, en nous voyant partir, se disait « C'est cool, l'évangélisation, c'est fait pour nous, cette année, on est tranquille. » Quelle est notre stratégie pour faire rayonner l'Évangile ? S'agit-il d'une simple semaine où on invite des gens pour faire le travail à notre place, et puis voilà, c'est fait ? Qui va combattre pour la foi de l'Évangile ? Qui va la défendre ? Qui va le représenter ? Qui va la vivre ? Qui va la faire progresser ? Qui va la partager ? Pour les Philippiens, la question est d'autant plus urgente parce que Paul, le grand apôtre, est en prison. Paul pressent le risque de se faire exécuter très prochainement. Si vous regardez au chapitre 1, verset 27 de l'Épître, Paul dit « Soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. » Dans notre passage aussi, chapitre 2, verset 12, « Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Si Paul disparaît, si le grand missionnaire du Nouveau Testament meurt, qui va faire avancer la cause de l'Évangile ? De grands évangélistes ? Des pasteurs doués d'un fort charisme ? Une équipe missionnaire qu'on invite des instituts bibliques ? Qui va s'assurer que la cause de l'Évangile perdure, qu'elle continue de persévérer et de progresser, même quand les apôtres ont disparu ? Au début du chapitre 2 de cet épître, un passage que vous connaissez tous certainement très bien, Paul nous montre comment l'Évangile a commencé. Alors bien sûr, on n'a pas le temps de regarder tous les détails, mais vous connaissez ce passage, c'est cet hymne qui chante la gloire de Jésus. L'Évangile a commencé dans la pensée, dans l'attitude de Jésus. Jésus avait une attitude de serviteur. Une manière de penser qui l'a conduit, celui dont la condition était égale à Dieu, à se dépouiller, à se faire esclave, à s'humilier jusqu'à la mort, et la mort même sur une croix. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pour servir. Parce que sa mort, c'est notre vie. En se livrant, en se soumettant au jugement que nous méritions tous, à cause de nos fautes, Jésus nous offre un plein pardon, la réconciliation avec Dieu. Il nous offre la vie éternelle dans une connaissance intime avec Dieu, dans un monde renouvelé. Et si nous avons toutes ces choses, c'est parce que Jésus est notre serviteur. Mais ce que dit Paul est bouleversant. Remarquez bien, il ne dit pas « bien que Jésus soit Dieu, il s'est humilié sur la croix ». Paul ne dit pas « bien que Jésus soit Dieu, il s'est humilié sur la croix ». Ce que Paul dit, c'est « parce que Jésus est Dieu, il s'est humilié sur la croix ». Là où l'on voit la nature de Dieu le plus clairement, là où on peut discerner le type de Dieu que nous avons, c'est quand on le voit humilié, crucifié, comme un brigand sur une croix. Là, sur cette croix, quand Jésus était pendu sur cette croix, là, on voit quel type de Dieu nous adorons. Fondamentalement, Dieu est un Dieu qui se donne, qui sert, qui s'humilie. Dieu se révèle par le serviteur souffrant. Le message de l'Évangile, c'est un salut obtenu par un Dieu qui s'abaisse pour servir son peuple. Et c'est quand on a été sauvé par ce Dieu-là que l'on va rayonner autour de nous. On va voir que l'Évangile n'avance pas grâce à un homme, à une personne, à un apôtre, à une équipe missionnaire d'un institut biblique. L'Évangile avance grâce au rayonnement de l'Église, et qui dit Église dit ses membres, pas l'institution, mais chacun de ses membres. Si vous devez retenir une chose ce matin, après vous pouvez dormir si vous voulez, retenez cette chose, c'est que nous tous, chacun des membres de cette église et des autres églises locales, nous tous en tant que chrétiens, nous avons tous reçu la responsabilité de la part de Dieu pour faire rayonner l'évangile de Jésus autour de nous. C'est notre responsabilité à nous tous. Et on va voir ça en trois temps. Premièrement, on va voir que nous avons un salut qui rayonne. Et qui rayonne, c'est-à-dire qui affecte tous les domaines de notre vie, à un niveau individuel. Deuxièmement, on va voir que c'est au travers d'un nouveau peuple que Dieu se constitue, qu'il se révèle, qu'il rayonne. Et enfin, nous allons voir que chacun des croyants, individuellement, porte la responsabilité de rayonner. Alors premièrement, nous avons un salut rayonnant. Relisez avec moi le verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Dans une autre traduction, on lit aussi « Mettez votre salut à l'œuvre ». Quand je dis un salut rayonnant, je l'ai dit, c'est que le salut se propage dans tous les domaines de notre vie. Toute notre vie est affectée par ce salut. Nous n'avons pas un salut qui est passif, mais on le met en action. On n'œuvre pas pour obtenir le salut. C'est l'inverse, c'est parce que nous sommes sauvés que nous mettons notre salut en œuvre. Nous nous mettons au travail. Quand une équipe de foot a payé le grand prix pour s'acquérir un nouveau joueur, que fait ce nouveau joueur? Il met son maillot, mais est-ce qu'il ne se pointe pas aux entraînements? Est-ce qu'il ne joue jamais sur le terrain? Est-ce qu'il peut se permettre de faire du badminton à la place? Bien sûr que non. Il met en œuvre son nouveau maillot. Il agit en conséquence de sa nouvelle affectation. Et en tout cas, c'est ce que l'équipe de France aurait dû faire récemment. Et donc, que va faire un chrétien sauvé par la mort sacrificielle de Jésus? Qu'est-ce qu'un chrétien va faire quand il est sauvé par un Dieu qui sert? Eh bien, il mettra son salut à l'œuvre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Paul nous l'a dit un peu plus tôt dans le chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous la pensée, l'attitude qui était en Jésus-Christ. » Notre salut est productif quand nous agissons avec ce même désir de service et d'humilité que Jésus. Mettre notre salut à l'œuvre, c'est être des mini-serviteurs qui suivent le serviteur. Mettre notre salut en action, c'est avoir le même état d'esprit que celui de Jésus. Jésus qui disait « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir ». Dieu ne te place pas dans cette situation familiale, peut-être compliquée, pour qu'on te respecte, ou pour qu'on te laisse tranquille, ou pour qu'on chante tes louanges. Dieu ne te place pas dans ce poste au travail, peut-être difficile, pour briller, ou pour ton épanouissement personnel. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu ne t'a pas placé dans ce quartier où tu vis pour être admiré ou envié. Non, Dieu nous place dans les circonstances qui sont les nôtres pour servir. Vous êtes le serviteur de tous, nous sommes serviteurs de tous. Si je suis sauvé, si j'ai reçu le salut de Jésus, je suis là où je suis pour être un serviteur. Sauvé par un Dieu qui se donne et donc nécessairement à l'œuvre pour se donner. Puis regardez aussi avec quelle attitude, verset 12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La crainte ici n'est pas celle d'un soldat, c'est la terreur qu'il ressentirait quand il est sous une pluie de balles et d'obus. Il ne s'agit pas d'une crainte de la puissance de Dieu, de son jugement, peut-être de sa désapprobation. Dans la Bible, le mot crainte signifie aussi l'intensité absolue du bonheur que l'on peut éprouver en Dieu. C'est plutôt la crainte, c'est plutôt les tremblements du jeune homme qui voit sa mariée s'approcher au bout de l'allée, alors qu'il est sur le point de s'engager avec elle. Voici ce que Michael Reeves écrit à ce sujet. Le thème biblique de la crainte de Dieu nous aide à comprendre quelle sorte de joie convient le mieux aux croyants. Notre désir pour Dieu et le plaisir que nous trouvons en lui ne sont pas censés être tièdes. Puisque notre amour pour Dieu est un amour tremblant et émerveillé, notre joie en Dieu, dans sa forme la plus pure, est une joie tremblante et émerveillée. Oui, une joie remplie de crainte. Car l'objet de notre joie est extrêmement terrible et merveilleux. Nous sommes faits pour nous réjouir et trembler devant Dieu, pour l'aimer et pour prendre plaisir en lui, avec l'intensité qui convient, avec une crainte, avec des tremblements. Quand on est tellement émerveillé par ce Dieu qui se donne, qui sert, tellement captivé par la beauté morale de ce Jésus, notre joie en est tremblante. Et forcément, nous mettons à l'œuvre notre salut. Nos vies seront forcément caractérisées par le service. Dieu n'est pas le Père fouettard qui est prêt à nous corriger à chaque mauvais geste. En Jésus, nous ne craignons pas le jugement. Mais il est un Dieu qui nous donne envie, qui nous émerveille, qui nous saisit par les tripes. C'est lui qui est à l'œuvre dans nos vies par son Saint-Esprit. Et au verset 13, c'est ce qui nous est exprimé. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. À la fois, nous mettons à l'œuvre notre salut. En même temps, c'est Dieu qui nous transforme, qui nous donne envie, qui nous fait le faire. Il transforme nos priorités et nos aspirations. Donc, dans notre premier point, nous voyons que être sauvé implique une vie qui est conforme à notre salut, une vie qui est affectée. Nous sommes sauvés par un sauveur serviteur, et donc nécessairement, nous sommes des serviteurs. Et on va voir que notre service, c'est pas juste faire de belles œuvres parce que c'est bien sympa de le faire, même si c'est pas moins que ça, mais c'est faire connaître Jésus au monde entier, pour que d'autres aussi en bénéficient. Et cela se passe à un niveau communautaire en tant qu'Église, ce sera l'objet du deuxième point, et à titre individuel, c'est ce qu'on verra troisièmement. Donc deuxièmement, un nouveau peuple qui est rayonnant. Mettre son salut à l'œuvre, c'est combattre pour la foi de l'Évangile. Et ce qui va faire donc avancer la cause de l'Évangile à Toulouse, à Montauban, dans le monde entier, c'est quand un nouveau peuple a une attitude de serviteur. Pourquoi je dis nouveau peuple ? Regardez avec moi au verset 14, je vais relire 14 et 15. Faites tout sans murmure, ni discussion, pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ces versets font allusion au peuple d'Israël. Après que Dieu a délivré Israël d'Égypte, Israël n'a fait que se plaindre, que de remettre en question l'autorité de Dieu. Il n'y avait pas assez d'eau, il n'y avait pas assez à manger, et puis la manne était devenue trop fade, et puis l'autorité de Moïse franchement était contestable, et le pays promis bien trop dangereux, etc. etc. Au lieu d'être reconnaissant et de faire confiance à leur Dieu bienveillant qui les a délivrés d'une main puissante hors d'Égypte, le peuple se plaint. Et ces versets ici font allusion à Deutéronome 32, que vous pourrez lire parce que c'est l'été et que vous avez le temps, Deutéronome 32, où Moïse fait ce reproche à Israël. Israël est ce peuple corrompu et pervers. La génération corrompue et perverse, c'est Israël, sorti d'Égypte, qui se plaint. Moïse va jusqu'à dire qu'ils ne sont plus enfants de Dieu, dès le Deutéronome. Ils sont souillés. Ils sont tachés. Et alors un peu plus tard dans la Bible, le prophète Ésaïe explique qu'Israël a échoué à la mission que Dieu lui avait confiée, à savoir d'être une lumière pour les nations, être un peuple exemplaire qui donne envie de connaître ce Dieu. Ésaïe prophétise à plusieurs fois qu'il faudra un serviteur souffrant, un serviteur avec un S majuscule, qui fera cela à la place d'Israël. Et dans la première moitié de Philippiens 2, justement, Paul montre que Jésus est ce serviteur par excellence, parce que Israël n'était pas capable de représenter, de donner envie de Dieu. Ésaïe prophétisait aussi que ce serviteur en grand S donnerait lieu à des petits serviteurs, des mini-serviteurs, un peuple de serviteurs. Et voilà maintenant que Paul dit cela aux Philippiens, à vous Toulousains, à nous Montalbanais, nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes le peuple qu'Israël n'a pas pu être. Nous, frères et sœurs, nous avons la vocation de rayonner et de donner envie au monde de connaître Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu qui va montrer au monde entier quel est ce Dieu que nous adorons, ce Dieu serviteur. C'est en tant qu'Église, en tant que communauté, que nous formons une communauté rayonnante qui fait rayonner l'Évangile. Alors qu'est-ce qui fait de nous des gens rayonnants, une communauté rayonnante? Bien, on l'a déjà vu, une bonne attitude. Vous avez vu ça au verset 14. Faites tout sans murmure ni discussion. Nous sommes un peuple qui prend exemple sur Jésus, qui pensons comme lui. Nous sommes un peuple qui est caractérisé par la joie dans le service et l'humilité. Peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous nous rendez visite. Bienvenue à vous. Merci d'être là, c'est un honneur. Si vous nous visitez pour la première fois, j'espère que vous serez frappés par l'attitude des chrétiens ici. J'espère que vous verrez qu'ici, on aime donner de soi pour le bien des autres. Les chrétiens aiment l'humilité. Ils aiment la douceur. Ils aiment rendre service, même quand ça leur coûte. Et ils le font avec un grand sourire, avec joie. Alors bien sûr, nous sommes imparfaits, nous ne le faisons pas parfaitement, mais c'est ce que nous visons. Si vous êtes visiteur parmi nous, j'espère qu'en voyant la vie de cette Église, la vie de ses croyants, vous comprendrez un petit peu mieux quel type de Dieu nous adorons. Nous n'adorons pas un Dieu qui aime se battre la poitrine fier de sa puissance, de sa gloire. Nous adorons un Dieu qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous adorons un Dieu qui aime s'abaisser pour nous élever. Et si ça vous intrigue, n'hésitez pas à poser des questions, on serait ravis de vous servir. Et le plus grand service qu'on pourrait vous rendre, c'est de vous parler de ce Dieu et de ce Jésus. Regardez le verset 15 avec moi. Nous sommes censés, chrétiens, briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. On pourrait aussi traduire comme des étoiles dans le cosmos. L'Église devrait briller de mille feux. Dans un monde qui va mal, l'Église devrait être des flambeaux. L'Église brille par son attitude de service, mais aussi par ses paroles. On ne sert pas juste parce que c'est bien sympa, parce que ça fait plaisir aux gens, mais ultimement notre mission, c'est de révéler qui est Dieu. Nous portons la parole de la vie, nous la retenons et nous la portons. La mission de l'Église, c'est de faire connaître ce Jésus, celui qui est la parole incarnée, celui qui nous offre la vie éternelle. C'est donc en tant qu'Église, en tant que peuple, nous sommes un nouveau peuple, que le message de l'Évangile sera annoncé, qu'il est rendu beau, qu'il est rendu palpable, qu'il est visible. C'est ainsi que l'Évangile avancera. Il y a un homme à Montauban, justement, qui organise cet été, je crois, une semaine d'évangélisation, une campagne d'évangélisation. C'est un homme, un évangéliste itinérant. Et donc, il organise plusieurs événements dans la ville, à Montauban, pour annoncer l'Évangile. Mais il le fait indépendamment des églises locales. Alors que Dieu bénisse son travail, s'il est fidèle à l'Évangile, mais il se prive d'une ressource essentielle. Il se prive de l'Église. L'Église qui est censée montrer au peuple la beauté, la gloire de Dieu. La gloire de ce Dieu-là, et pas un autre, qui se donne et qui sert. C'est dommage parce qu'il se prive des relations entre chrétiens qui se construisent et qui montrent la beauté de l'amour Ils se privent de personnes intéressées par les autres. Ils se privent d'un contexte où ce message n'est pas seulement proclamé, mais aussi vécu. Ce doit être dans la culture de l'Église, c'est vraiment ce que nous visons à Montauban, ce doit être dans la culture de l'Église de porter la parole de vie les uns aux autres. C'est ainsi que l'Église rayonne. Et c'est pour ça même que Paul est prêt à donner sa vie pour les Philippiens. Vous avez vu ça au verset 16 et 17. Peut-être que vous avez pensé que Paul est un peu un extrémiste. Il est un peu foufou de dire ça. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de sacrifice, en plus du sacrifice de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis. Même si je devais verser ma vie pour vous, c'est une joie. Il n'est pas un extrémiste, il n'est pas fanatique, c'est un chrétien mûr. Un chrétien mûr qui se donne, qui est dévoué pour le rayonnement de l'Église. Alors bien sûr, Paul est un apôtre, n'est-ce pas? C'est un cas à part. On pourrait dire que c'est normal que Paul, bien sûr, se dévoue pour l'avancement de l'Évangile. Mais nous, ça ne nous concerne pas, on n'est pas apôtre, n'est-ce pas? Mais Paul veut servir d'exemple. Paul écrit à l'Église de Philippe. Et c'est qui l'Église de Philippe? C'est les anciens? C'est les évangélistes? C'est les apologètes? À qui Paul confie-t-il la mission de préserver et de transmettre la foi? À qui Paul confie-t-il la responsabilité de l'avancement de l'Évangile? Eh bien, c'est à des individus, des gens normaux, qui sont responsables du rayonnement. C'est notre troisième point. Dans les versets 19 à 30, on a un paragraphe un peu inhabituel. Ou du moins inhabituel parce qu'il n'est pas censé être là, en plein milieu de la lettre. Vous avez remarqué ça? La première fois que j'ai lu ces versets 19 à 30, j'ai eu l'impression qu'ils étaient au mauvais endroit dans la lettre. Souvent, on voit ce paragraphe à la fin d'une lettre de Paul. Ce ne sont que des détails, des formalités logistiques. Je vous envoie X et Y et puis ramenez-moi mon manteau. On mettrait ça à la fin. Mais ce paragraphe est en plein milieu de la lettre. En plein milieu. Toute la lettre s'articule autour de ce paragraphe. Il y a un avant, il y a un après. Toute la lettre s'articule autour de ces deux personnages, Timothée et Épaphrodite. Et si ce paragraphe est le point de bascule de l'épître, c'est qu'à ce moment-là, ce que Paul est en train de faire, c'est passer le relais à l'église de Philippe. Paul ici donne le bâton de l'avancement de l'évangile entre les mains de tous les chrétiens. Paul met d'abord en avant son bras droit, Timothée, qui se soucie sincèrement des Philippiens. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Il incarne véritablement la pensée de Jésus. Pourtant, Timothée n'est pas un apôtre. Il est là en tant que responsable d'église, aguerri, certes, mais pas un apôtre. Et c'est lui qui continuera à faire progresser l'évangile à Philippe. Mais Paul ne s'arrête pas là, et je pense que c'est encore plus frappant justement. Regardez avec moi verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. J'espère. Mais au verset 25, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Épaphrodite, c'est qui? C'est personne. C'est pas un responsable d'église. Il n'est qu'un livreur, un facteur, un messager. Il pourrait être ingénieur, il pourrait être docteur, instituteur, institutrice, retraité, mère au foyer, éducatrice sportive, n'importe qui. Vous. Vous et moi. Épaphrodite est un chrétien ordinaire, un chrétien normal. Et regardez ce que Paul dit de lui au verset 29 et 30. Recevez-les dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt à mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Ce genre d'investissement de la part d'un chrétien normal, ce genre d'investissement qui va jusqu'à la mort, ce genre de mise à l'œuvre du salut. C'est l'appel de tous les chrétiens. Épaphrodite imite Christ en ce qu'il se donne volontiers pour la cause de l'Évangile. Dans l'esprit d'Épaphrodite, la cause de l'Évangile, c'est pas le ministère de Paul, c'est pas le ministère des responsables, ou du moins pas seulement. Dans l'esprit d'Épaphrodite, c'est son ministère, c'est sa tâche, c'est sa responsabilité. Bien sûr qu'il n'a pas les mêmes responsabilités ou les mêmes dons que Paul. Vous n'êtes tous pas Vincent Bourrel ou Samuel Niblack. Mais vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à nous y consacrer sans murmure, sans discuter et avec joie. Alors vous savez, il est facile d'être impliqué à distance. J'ai entendu dire des chrétiens qui disent « Ah moi je donne généreusement » et c'est vrai, ils donnent généreusement, mais je laisse les autres faire. Je connais des gens qui sont très encourageants, qui encouragent, mais pour que d'autres fassent. Je t'encourage, tu fais bien, bravo, mais je ne ferai pas. Vas-y. Je connais d'autres personnes qui laissent faire l'Église. Quand l'Église organise quelque chose, je suis là, j'invite quelqu'un. Mais quand l'Église n'organise pas un événement, on n'entend jamais parler de lui ni de ses amis. Mais en tant que membre d'une église, en tant que chrétien, vous êtes, nous sommes tous, acteurs pour le progrès de l'Évangile. C'est votre ministère. Ce qui se passe ici ce matin, c'est pas on le fait pour vous, mais vous êtes là en tant qu'acteurs pour votre ministère, pour être à l'œuvre. C'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité à nous tous. Pourquoi ? Parce que peut-être vous avez un don particulier. Parce que vous êtes particulièrement fin avec les mots, parce que vous avez tous les bons arguments apologétiques, parce que votre vie vraiment brille d'amour et de joie. Non. Simplement parce que vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes responsable de l'avancement de l'Évangile. Quelques implications plus concrètes. On a vu qu'un chrétien qui a été servi par Jésus mène nécessairement une vie de service qui mène à faire rayonner l'Évangile autour de lui, en parole et en acte. On a vu que l'Évangile rayonne à la fois quand il est incarné, mais aussi quand il est proclamé au sein d'une communauté, un peuple qui donne envie, les relations qui donnent envie. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le rôle de l'Église, ce n'est pas de faire des événements. Le rôle de l'Église, c'est pas d'organiser plein de programmes et de faire plein de tournus et d'avoir plein de gens qui font plein de trucs grâce à l'Église. Le rôle de l'Église, c'est plutôt de cultiver une culture où l'Évangile est juste naturellement ce qu'on l'on fait. C'est ce qu'on respire, c'est l'air qu'on respire. L'Évangile est dans tout ce que nous faisons individuellement et ensemble. Et c'est ça notre stratégie à Montauban. Et j'imagine que ça doit être aussi la vôtre. Nous voulons qu'en tant qu'Église, l'Évangile, et on l'a jusqu'au bout des ongles, on l'a sur la langue. On le parle, on le discute, on en parle avec d'autres, avec des amis chrétiens ou des non-croyants, et on le met en œuvre. C'est pas quelque chose qu'on fait une semaine par an, quand on invite des gens de l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Demain, vous êtes en mission. Après-demain, vous l'êtes. Et aujourd'hui, alors que vous êtes assis sur cette chaise, et quand j'aurai terminé de parler, vous êtes en mission. Vous êtes en mission pour faire propager l'Évangile autour de vous. J'ai lu l'histoire de Caroline. Caroline, c'est une dame normale, une chrétienne normale, d'une église normale. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Son église est assez extra. Mais ça pourrait être une église normale. Et elle a papoté avec quelqu'un à côté d'elle dans un avion. Elle a partagé sa foi, simplement. Et puis Caroline s'est demandé, tiens, comment je peux faire progresser cette personne pour l'amener un peu plus loin, pour l'aider à réfléchir un peu davantage à ces questions. Et dans la vie de l'Église, il n'y avait pas un événement du genre un parcours découverte ou une soirée d'évangélisation ou une chorale qui chante l'Évangile ou ce genre de choses. Le prochain événement dans la vie de cette Église, c'était le samedi, un mariage. Un mariage ordinaire, de deux croyants ordinaires. Mais elle savait, Caroline, que cet événement, bien qu'il soit ordinaire dans la vie de l'Église, il y aura l'évangile qui sera prêché, qui sera mis en œuvre, qui sera exprimé, qui sera incarné par les uns les autres. Caroline savait que dans son église, à quelque événement que ce soit, le message de Jésus sera annoncé et des chrétiens autour d'eux, autour d'elle, auront un cœur de rencontrer d'autres non-chrétiens, auront un cœur de partager l'évangile, de servir d'autres personnes, que l'évangile sera vécu concrètement. Je vous pose à vous la question, est-ce que vous avez l'assurance que quand vous invitez quelqu'un, votre collègue, votre voisin, un membre de votre famille qui ne connaît pas encore Jésus, est-ce que vous avez l'assurance, quand vous l'inviterez à un événement ordinaire de la vie d'église ici, que l'évangile sera vécu, sera proclamé? Est-ce que vous avez l'assurance que si vous invitez, comme c'était le cas une fois à Montauban, un de vos amis, un de vos voisins, pour vous aider à déménager les Koenig, vous l'invitez là, vous savez qu'il y aura d'autres chrétiens. Est-ce que vous avez l'assurance qu'à ce moment-là, un moment ordinaire de la vie de l'Église, l'Évangile sera incarné et discuté? Est-ce que nous avons une vie dévouée à l'Évangile? Et pour que cela fonctionne, bien sûr, il faut que l'on soit tous à l'œuvre, tous acteurs, comme Caroline. Avec les personnalités et les goûts que Dieu vous a donnés, dans les contextes où il vous a placés, vous rayonnez en parole et en acte. Vous invitez des gens vers l'Église, vers cette communauté rayonnante qui donne envie. L'Église, c'est votre ressource, c'est votre QG, c'est votre lampe de rancement. L'Église est là non pas pour simplement vous donner de bonnes émotions ou vous donner de la nourriture spirituelle. Certes, c'est utile pour ça, mais elle est là pour servir, vous servir dans votre ministère et vous y encourager. Je pense aussi à mon pote Johnny. Il venait à l'église le dimanche matin, et tous les dimanches matins, en marchant à l'église, il priait. Il disait « Seigneur, place-moi ce matin à côté de quelqu'un que je vais pouvoir encourager. » Et vous y croirez certainement que Dieu, bien sûr, le place toujours à côté de quelqu'un avec qui avoir une conversation qui est édifiante, soit avec un chrétien qui l'encourage, soit avec un non-croyant qui se pose des questions. Johnny avait compris qu'il ne venait pas à l'église juste pour consumer. Il ne venait pas à l'église pour qu'on le nourrisse et on lui donne des choses et qu'on l'aime et qu'on le serve. Mais il avait compris que le ministère du dimanche matin, c'est aussi le sien. Il est acteur le dimanche matin. Il se servait des structures de l'église que l'église organisait, mais pour le faire avancer comme des outils dans son ministère. Je voudrais juste finir avec ceci. Peut-être que vous sentez un peu, vous avez un gros poids sur les épaules là, vous sentez responsable maintenant, une grosse charge. Franchement, tout donner pour l'Évangile, tous les domaines de la vie, vraiment, une responsabilité de plus parmi toutes les autres que vous avez déjà. Mais regardez combien de joie Paul exprime. C'est mon sujet de gloire de voir la foi d'autres prospérer, au verset 16. Même si je donne ma vie, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous, verset 17. Et parce que c'était pas suffisant, au verset 18, il rajoute, vous aussi, réjouissez-vous aussi de même avec moi. Verset 29, recevez Épaphrodite avec une joie entière. Alors bien sûr, il y aura plein de sacrifices. Bien sûr que ce sera dur. Bien sûr que parfois on a des conversations, franchement, on est un peu gêné, on a envie de se cacher. Mais ce sont des sacrifices qui sont faciles à faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce de souffrir pour Christ. C'est un privilège de pouvoir servir celui qui nous a servi. Et quand on a tout reçu, on est prêt à tout donner, même avec joie. Prions ensemble. Notre Dieu, quel Dieu fabuleux tu es. Qui pourrait imaginer un Dieu qui se caractérise par le service, par l'humilité, par l'abaissement, par le don de soi. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Et Père, nous aspirons à vivre de la même manière que Jésus, avoir cette même attitude, cette même pensée de service, d'humilité, de douceur. Nous voulons, Père, être des serviteurs à la suite de Jésus. Nous voulons, notre Père, et nous implorons ton aide pour que nous puissions venir au service les uns des autres. Que dans notre communauté, le service, l'humilité, la douceur, l'amour soient des éléments palpables. Que l'on ait une joie immense à pouvoir rendre service, à aimer les autres, parce que tu nous as aimés et servis d'abord. Et Père, tu connais notre ministère en tant qu'église ici, à Montauban. Tu connais notre désir de faire connaître Jésus autour de nous. Et nous voulons, Père, que ce Jésus-là, qui sert, qui s'abaisse, soit connu. Qu'il soit connu au travers de notre manière de vivre, les uns avec les autres, avec les personnes de l'extérieur qui ne connaissent pas encore Jésus. Que cette connaissance de Jésus soit incarnée en notre sein. Et que la bonne nouvelle, cette parole de vie qui nous donne la vie éternelle, puisse être partagée, discutée, enseignée, chérie. Nous te prions, Père, que tu bénisses notre ministère à tous, que tu nous encourages à chacun à prendre à cœur cette responsabilité de faire connaître Jésus autour de nous. Et que dans ta gloire, pour ta gloire, dans ta grâce, tu nous accordes de voir de nombreuses personnes rencontrer ce même Dieu serviteur et s'agenouiller, se prosterner devant lui, devant une telle beauté de caractère. Gloire à toi, Seigneur. Amen.